Louis Albran a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir de retrouver Louis Albran. Bonjour Louis.
Bonjour. Nous avons déjà parlé dans les émissions précédentes des princes archevêques d'Embrun, cette institution qui a duré pendant 1500 ans. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'un d'eux, Jacques Gélu, 1427-1432, donc qui a été 5 ans sur le roc d'Embrun en tant que prince archevêque. Il a un rôle important car il prend cette charge au moment du procès de Jeanne d'Arc. Au moment de l'affaire Jeanne d'Arc, il écrira d'ailleurs un livre qui s'appelle « Pour Jeanne », dont nous parlerons plus tard. C'est un natif du Luxembourg. Il devient professeur à la faculté d'Orléans après avoir fait de solides études scolastiques et juridiques à Paris. Il est reçu au concours de conseiller du Parlement de Paris, puis devient proche collaborateur du frère du roi Charles VI. Il fait donc une carrière de conseiller au plus haut niveau, on dirait aujourd'hui un jeune des cabinets ministériels sorti de l'ENA, un technocrate. Le dauphin le nomme en 1414 archevêque de Tours. Il a alors un rôle important en politique extérieure, car c'est un spécialiste de la géopolitique. C'est un homme très intelligent. Puis, il devient archevêque d'Embrun en 1427. Il vit quelques mois à Guillestre en attendant de recevoir ses bulles de nomination. De cet observatoire au Alpin, on a d'ailleurs encore les ruines de son château, sur la rive gauche du Chagne. Il analyse la vie politique, celle-ci est compliquée. Deux candidats pour le trône de France, le fils de Charles VI, Charles VII, dauphin de France, et le gendre de Charles VI, Henri V, roi d'Angleterre. Par ailleurs, trois papes prétendent à la tiare, l'unité romaine comme l'unité française sont donc menacées. C'est dans ce sombre contexte qu'en tant que conseiller des rois, Gélu va, grâce à son génie, sa clairvoyance, apaiser, clarifier, trouver des solutions. D'Embrun, il écrit au roi d'Angleterre pour l'exhorter à la paix et lui rappeler que seul le dauphin est le roi légitime. Il parle dans cette lettre de l'injustice des prétentions anglaises dénuées de toute légitimité. Du palais d'Embrun, donc, il écrit d'égal à égal avec un des plus grands rois d'Europe. Quelle assurance, quelle confiance en son rôle pour l'unité française. Et surtout, quel génie. Les peuples ne s'y sont pas trompés, qui ont donné son nom à une place, à la fois derrière la cathédrale du Réal à Embrun, et devant la cathédrale, l'église de Guillestre. Car, on l'a dit, il met ses journées à Guillestre, il passait l'été à Saint-Grépin, où il avait une maison, car il trouvait l'été plus frais qu'à Embrun. Il y a d'ailleurs à Saint-Grépin une rue toujours appelée la rue de l'archevêque. Donc Gélu entend parler de l'affaire Jeanne d'Arc, cette pucelle de 16 ans qui prétend conseiller Charles VII et l'aider à reconquérir son trône. Dans un premier temps, il exhorte le roi à la prudence et lui conseille, j'ai pu voir une de ses lettres, de ne pas se fier au discours d'une paysanne solitaire, fragile et se rendre ridicule devant les étrangers. Et il rajoute que les Français étaient connus pour leur facilité à être dupés, non sans rappeler plus tard les propos de Voltaire, ce peuple qui aime être trompé. Et de notre côté, il croit en la Providence et il pense devoir son succès et sa situation à celle-ci. Souvent dans ses écrits, il parle du rôle de la Providence dans sa vie. On connaît la suite, la rencontre de Jeanne d'Arc avec le dauphin qu'elle reconnaît sans ne l'avoir jamais vu, qui lui prédit ses victoires, etc. J'ai lu et alors persuadé du rôle providentiel de la petite bergère de Saint-Rémy. Il rappelle alors que si Dieu agit par le Saint-Esprit, il se sert aussi pour son action providentielle des êtres humains. Il cite Moïse, David, Judas, Maccabée, Judith, Esther, etc. Il prend dès lors totalement parti pour l'action de la bergère Jeanne et écrit à Charles VII, après avoir longuement prié dans la cathédrale d'Embrun au pied du Réal, « Si vous n'obéissez pas à la pucelle, craignez d'être abandonné par le Seigneur. » Hélas, après le triomphe de Jeanne d'Arc au sacre de Reims, les trahisons, la félonie l'éloignent des cercles du pouvoir, de décision. Elle devient une femme gênante qui contredit le duc de Bourgogne. Or, si Charles VII avait su écouter l'archevêque d'Embrun, la guerre de Cent Ans lui était plus courte. Trahie, Jeanne est capturée le 23 mai 1430 par les Anglais. Alors Gélu, d'Embrun, reprend la plume dans son bureau sur le roc. Il rappelle au roi tout ce qu'il doit à Jeanne d'Arc et lui demande avec insistance de payer le prix de sa libération, de payer la caution aux Anglais. Il écrit « Pour la délivrance, pour son rachat, n'épargnez rien, sire, ni moyen, ni argent, sinon vous encourriez l'ineffable reproche d'ingratitude. » Le style est direct. Mais hélas, l'ingratitude des grands est bien connue. Jacques de Gélu fait prier Embrun et son diocèse. Il organise de longues messes et prières nocturnes dans la cathédrale pour la libération de Jeanne. Ses lettres, en copie aux archives de l'Isère, ont été brûlées à Embrun en 1793. Elles montrent que Gélu, successeur de Saint-Martin à Tours, de Saint-Marcellin à Embrun, était un grand mystique et un grand homme politique, qui savait analyser le rôle de la Providence dans les affaires de la France, qui savait s'opposer aux grands quand il était certain d'avoir la clairvoyance et des moyens que Dieu peut utiliser pour sauver notre pays. On retrouvera plus tard chez Charles de Gaulle une semblable analyse quand il dénonce dans un discours fameux que quand la France s'approche du précipice, une main invisible providentielle l'arrête. Si la voix de l'archevêque d'Embrun seul, isolé dans nos montagnes, avait été écoutée, la France aurait retrouvé 25 ans plus tôt sa liberté. Il y avait chez Gélu à la fois sa formation aristotélicienne, le principe des quatre causes de la scolastique et une foi totale à la Providence. Son analyse allie le rationnel à la mystique. C'est ainsi que son traité de l'avenue de Jeanne annonce le climat intellectuel de la Renaissance. La raison n'est pas incompatible avec l'action de Dieu dans les affaires humaines. On retrouvera plus tard cette idée chez Pascal. Après la mort de Jeanne d'Arc, brûlée à Rouen, Jacques Gélu poursuit son travail épiscopal. Il visite toutes les paroisses, il vit une partie de l'année à Guillers dans un château au bord du torrent du Chagne. Le parc du château deviendra un cimetière protestant. Aujourd'hui, c'est un jardin où on peut voir au printemps les merveilleuses tulipes de Guillers. Gélu aime Guillers pour la bonhomie de ses habitants, pour sa fraîcheur l'été. Il passe le mois d'août à Saint-Grépin dans une modeste maison, aujourd'hui située rue de l'Archevêché, très fraîche tant il redoute la canicule estivale. Malgré une santé fragile, il se rend à Parme pour rencontrer l'empereur Sigismond, qui lui confirme son titre de prince-archevêque du Saint-Empire romain germanique. Il a de bons rapports avec le dauphin et élargit le domaine de l'archevêché, qui comprend maintenant les terres de Sauze, de Beaufort, de Rochebrune, de Brézier, de Crévoux, de Châteauroux, de Saint-Clément, de la Roche, de Chancelat, d'Aiglier, et la ville de Guillestre, Rizoul, la plaine de Fazy, Seillac, etc., Vars et leurs dépendances, ainsi que dans la vallée de Barcelonnette, Josier, Faucon, Barcelonnette, Saint-Pons, etc. Il profite d'une conjoncture favorable pour faire confirmer son droit de battre monnaie. Pour cela, une charte l'autorise à exploiter les mines d'argent de Châteauroux et de l'Argentière. La monnaie est battue à Cézanne, aujourd'hui italien. Il est l'un des derniers archevêques à avoir sa monnaie, car en 1485, le dauphin interdira l'usage d'aucune autre monnaie que la sienne et celle du roi. Gélu, l'intellectuel, prend le temps d'écrire dans ses retraites estivales guillestrines et saint-grépinoises. Il écrit les biographies de ses plus illustres prédécesseurs. En 1421, il s'attaque aux mémoires de sa vie, que l'on peut encore consulter dans les archives de l'église de Tours. Bien qu'isolé sur son roc d'Embrun, affaibli par le passage inexorable du temps, les misères de l'âge et la maladie, les rois, les papes lui écrivent pour lui demander conseil. Le pape Eugène IV l'invite à le rejoindre pour préparer le concile de Bâle, mais il est trop tard. Le 20 octobre 1432, entouré de l'affection du peuple d'Embrun, il rejoint ses prédécesseurs sous la dalle de la cathédrale. Près de son tombeau sera élevé un autel en hommage à Jeanne d'Arc. Un authentique embruné lui succédera, il s'agit de Jean de Girard, 1432-1457. Il faut se rappeler que Gélu était un homme intelligent, parfois génial, bon, car jamais il n'entreprit aucune croisade contre les Vaudois de nos hautes vallées, dont il estimait la profondeur de la foi.
Merci. Oui, Albron.